RTL Équipe, Carrément Glisse, Clément Grèze.
Bonjour à tous, lundi 22 novembre, bienvenue pour un nouveau numéro de Carrément Glisse. La neige tombe sur les montagnes françaises, le froid s'abat sur nos campagnes, Carrément Glisse reprend donc du poil de la bête et s'offre une nouvelle heure pour décortiquer l'actualité de nos sports préférés. Le coup de cœur d'abord, destination Jason Lamy Chapuis, à une semaine du coup d'envoi de la saison. Le champion olympique de combiné nordique est en forme déjà et confiant pour l'avenir, vous l'entendrez dans deux minutes. Une année qui débute, c'est le cas aussi pour l'ensemble des équipes de France de biathlon. Magnifique à Vancouver, les Bleus se préparent à confirmer. Un exemple, Marie-Laure Brunet, double médaillée au Canada, qui sera notre invitée tout à l'heure. Carrément Glisse aussi, pour faire le point sur l'actualité du ski de fond, après un week-end raté pour les tricolores et une blessure inquiétante, on va dire, pour leur chef de file Vincent Vitoz. Le trophée Bompard, c'est l'événement de cette fin de semaine. Tout le Gotha mondial du patinage artistique se donne rendez-vous au Palais Omnisports de Paris-Bercy pour s'affronter sous vos yeux. Avec nous, en début de deuxième demi-heure, Didier Gaillelier, le président de la Fédération française des sports de glace. Et puis, Carrément Glisse s'achèvera tout à l'heure avec un invité dans ce studio rue Bayard à Paris. Une belle rencontre en perspective avec Aurélien Ducrot, champion du monde de freeride de l'an dernier, et qui a décidé de se lancer un défi parallèle, la course au large, double objectif, le titre en ski cet hiver, la mini transat l'été prochain. Glisse, glace, mais surtout plaisir en votre compagnie sur le www.rtl-l'équipe.fr. C'est Carrément Glisse pendant une heure.
Sur RTL Équipe, c'est Carrément Glisse jusqu'à midi et demi.
Mais Carrément Glisse, c'est aussi la rediffusion, vous le savez, de 15h30 à 16h30 tous les lundis et la possibilité de nous retrouver en podcast sur le site internet le www.rtl.fr, l'onglet RTL-l'équipe. Le début de cette émission, donc, c'est le coup de cœur de l'équipe hier dans l'émission RTL en direct de l'équipe présentée par Jérôme Milagou. Cette émission de 19h30 à 20h30 tous les dimanches. Jason, l'ami Chapuis, invité aux côtés de Jérôme, donc, et de Benoît Lallemand, le journaliste du quotidien L'équipe, pour revenir sur ce début de saison qui se profile en Finlande la semaine prochaine. C'est la rediffusion aujourd'hui dans Carrément Glisse. Jason, l'ami Chapuis.
Le coup de cœur de l'équipe.
Et pour le coup de cœur de l'équipe ce soir, Benoît Lallemand nous rejoint, le responsable de la rubrique olympique. Bonsoir Benoît.
Bonsoir.
Ce soir, ce coup de cœur nous ramène 9 mois, déjà 9 mois en arrière. Et oui, on avait envie de vous parler de l'un des hommes de l'année qu'il ne faudrait surtout pas, mais alors surtout pas oublier, au moment de désigner, vous savez, au moment des bilans, les champions français de l'année.
Oui, effectivement, les champions de l'hiver ont un peu cette malchance qu'on les oublie au moment de décerner les prix.
Donc, et pourtant,
Jason nous avait fait vibrer à Vancouver lors des Jeux Olympiques en remportant un magnifique titre olympique et en prolongeant ça par des exploits en Coupe du Monde, puisqu'il a aussi remporté la Coupe du Monde de combiné nordique.
Et la même année, c'est une sacrée performance. Jason, l'ami Chapuis, sa discipline, le combiné nordique, vous le savez, vous ne l'avez pas oublié. Jason, bonsoir.
Bonsoir.
En duplex de Kuusamo, en Finlande, pays du Père Noël, vous l'avez aperçu du tremplin ?
Non, pas encore, mais on a croisé des rennes, des élans, donc
il doit pas être loin.
Dans le bain. Ouais.
Il ne doit pas être loin. Kuusamo, Jason, là où tout a commencé finalement, en tout cas a commencé cette fameuse saison 2009, cette fabuleuse saison 2009-2010, oui. L'or olympique, le globe de cristal, ça doit vous rappeler plein de souvenirs.
Oui, bah, c'est reparti pour une saison, hein. Là où on vient d'arriver à Kuusamo. Il fait moins 8 degrés, on se retrouve dans la neige, le froid, et ça rappelle des bons souvenirs, bien sûr, la saison dernière, qui était exceptionnelle pour moi.
Alors, Jason, l'ami Chapuis, le grand public vous a peut-être perdu de vue hein, depuis l'hiver dernier, depuis ce grand bonheur, ce grand sourire olympique. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis 9 mois ?
Et ben, beaucoup de choses, on va dire que la médaille, ça a quand même changé beaucoup de choses. Par rapport à tout ce que j'ai fait, déjà les 3 mois qui ont suivi la médaille, c'était un peu le sprint, le marathon, entre les demandes médiatiques, les réceptions, mais en même temps c'était super sympa. Et puis il y a eu un petit coup de, je dirais pas de déprime, mais de vide derrière cette médaille. Et il a fallu se remotiver, repartir en entraînement, et on est reparti à partir du mois de juin, juillet, on est parti en entraînement estival pour arriver en forme cet hiver.
Quoi. Et c'est pas facile, hein, Benoît Lallemand, tous les grands champions connaissent ça quand ils atteignent l'Everest, pourtant vous avez l'habitude hein, de voler haut, Jason, mais c'est pas facile une fois que l'objectif ultime, le Graal, est atteint.
Bah oui, est-ce que la motivation était un peu plus difficile à trouver, Jason, justement au mois de juin, juillet, quand il a fallu repartir, que les années précédentes ?
Oui, bah en général, on a toujours un petit peu plus de mal après les saisons à se remettre dans le bain, à se remettre à l'entraînement. Une fois que c'est reparti, ça va. Mais cette année particulièrement, parce que disons que l'objectif de 4 années était passé. Et après, il faut se redonner des objectifs. Le lendemain de la médaille, on se demande maintenant, qu'est-ce qui se passe, quoi.
Et justement, alors, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? On est quand même... on s'est quand même remis autour d'une table avec les entraîneurs pour se remettre des objectifs assez précis, et c'est en mettant des objectifs précis qu'on arrive à se remotiver et partir à l'entraînement. Donc pour nous, c'est de partir d'abord sur 4 ans et défendre son titre olympique à Sochi en 2014. Et puis, à plus courte échéance, on a quand même en février prochain des beaux championnats du monde à Oslo en Norvège. Donc, Il y a de quoi faire.
Ah, ils aiment le saut en Norvège, hein, ça c'est clair. Le ski nordique, c'est vrai que ça ne doit pas être facile hein, au milieu de l'été quand il s'agit de remonter sur les skis, sur le synthétique en plus, de faire du ski sur roulette. Mais j'imagine que quand la neige revient, quand vous repartez dans les pays du Grand Nord, quand l'élément qui vous est cher revient, le froid, ça revient naturellement. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, Jason.
Oui, voilà. Voilà, on est quand même dans notre élément, on se sent bien, on est reparti, on a un bon groupe aussi, mes coéquipiers c'est important qu'ils soient là aussi à côté de moi, et l'entraînement, on rigole toujours autant, donc ça aussi, ça aide beaucoup.
Et est-ce qu'à l'approche de la compétition, on n'a pas cette petite, pas angoisse, mais cette petite peur que les sensations soient finalement pas aussi bonnes qu'elles pouvaient l'être la saison passée?
Mais parce que quand je regarde votre site internet avec le fameux cockpit d'avion, hein, parce qu'on sait que vous êtes pilote émérite, quand je vois le baromètre de forme, il y a bof d'un côté, c'est rouge, il y a top d'un côté, c'est vert. Pour l'instant, il est plus près de bof que de top, Jason, en ce moment.
Je me laisse une petite marge.
Ah ouais. Pourtant, d'après ce qu'on a vu sur les entraînements, ça va pas mal au niveau du saut, là.
Ouais, voilà. Au moment de partir en stage d'entraînement, j'avais un peu des doutes, parce que c'est sûr que on se demande si ça va pas aussi bien que l'année dernière, qu'est-ce qui va se passer. Mais finalement, j'ai retrouvé assez rapidement mes marques sur la neige, et puis d'après les premiers entraînements et les premiers tests qu'on a fait, ça va plutôt bien. Donc pour l'instant, ça va, quoi. Je me sens assez confiant, même si je ne sais pas si j'aurai autant la forme qu'année dernière, mais je me sens assez confiant.
Ça veut dire que le changement de matériel a également été bien assimilé, puisque ce n'est pas anodin, notamment en saut, de changer ses skis qui sont un élément très important.
Disons que c'était aussi un challenge supplémentaire pour recommencer à zéro. Mais j'ai mis pas mal de temps cet été à choisir des bons réglages par rapport à mon matériel. Surtout en saut, c'est des réglages assez fins sur le centre de gravité et tout ça. Donc j'ai mis un petit peu de temps, mais là j'ai l'impression que le travail porte ses fruits. Et j'ai fait des bons sauts dernièrement, donc j'arrive à Kusamo avec un de mes tremplins préférés, où je suis assez confiant.
Et vous aviez gagné l'année dernière. Dernière question peut-être, Jason, sur la discipline, le combiné nordique. Est-ce que vous avez ressenti peut-être un frémissement après l'effet JO, après l'effet Vancouver, après l'effet Jason, sur la discipline?
Oui, je suis assez content, parce que combiné nordique, c'est quand même pas une discipline très connue. Mais j'ai rencontré beaucoup de monde qui a beaucoup suivi le combiné nordique au JO et qui ont vibré grâce au combiné nordique. Donc je suis assez content d'avoir pu faire connaître un petit peu ma discipline, et j'espère que ça va continuer.
Eh bien voilà, très bel ambassadeur de cette discipline. Effectivement, il faut gagner, continuer, mais ça, on peut compter sur Jason. On va vous suivre évidemment tout au long de cette saison de Coupe du Monde, les Mondiaux l'année prochaine et jusqu'à Sochi 2014. Merci Jason, l'ami Chapuis, de nous avoir accordé quelques instants. On espère que vous étiez bien au chaud, hein, parce que combien, moins 8 en Finlande?
Ouais, moins 8.
Ouais, restez au chaud avant de sauter vendredi prochain, à partir de vendredi prochain, première étape de la Coupe du Monde.
Tous les lundis dès 11h30, c'est Carrément Glisse sur RTL L'Équipe.
Et Carrément Glisse, vous le savez, c'est l'actualité des sports d'hiver, de tous les sports d'hiver, et notamment donc du ski de fond, le début de la Coupe du Monde. C'était ce week-end à Gällivare en Suède, et on va retrouver pour en parler Christophe Deloche, le directeur de la Coupe du Monde pour cette équipe de France. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors on va commencer par la vraie mauvaise nouvelle au-delà des états de forme disparates de l'ensemble de cette équipe de France. C'est la blessure à la cuisse du chef de file, du patron véritablement de cette équipe, Vincent Vitoz. Est-ce qu'on a des petites nouvelles de Vincent ce matin?
Non, on n'a pas de nouvelles plus particulières qu'hier soir. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une lésion musculaire aiguë. Il va passer une IRM soit cet après-midi, soit dans les jours qui viennent, en fonction des rendez-vous qu'on va pouvoir trouver. Et puis à partir de là, on aura la nature de la gravité et puis la durée d'arrêt de Vincent.
Alors, on peut dire que c'est une blessure liée à la préparation ou c'est pour le coup un coup du sort lié à la course ?
Non, je crois que c'est surtout un coup du sort lié à la course. La préparation, on a fait la même que d'habitude. Alors, il a peut-être un petit peu plus de fatigue, ça c'est difficile à dire.
Là, c'est l'âge.
Mais,
hein.
Oui, l'âge aussi, c'est sûr qu'on est sûrement un peu plus blessé avec l'âge. Bon, c'est quelqu'un qui est rarement blessé quand même, et puis voilà, ça arrive là, en pleine course, sur un parent classique, et il a le muscle qui a lâché, mais voilà. Avant qu'on ait des examens plus précis, c'est difficile de dire la gravité de la blessure.
Alors, un mois environ d'arrêt, c'est en tout cas ce qu'on peut lire ce matin dans l'équipe, en page 21, il espère être de retour à la Clusaz pour cette étape. Comment l'équipe de France va devoir s'organiser désormais sans Vincent Vitoz ? C'est le chef de file, on le disait, c'est un peu le patron de cette équipe. Il va falloir un tout petit peu redistribuer les cartes désormais.
Oui, bon, c'est vrai que de ne pas avoir Vincent au départ, ça va nous faire un petit peu bizarre, parce que ça fait quand même maintenant 10-15 ans qu'il est là. Maintenant, on a quand même Jean-Marc Gaillard, on a quand même Maurice Magnifica, qui sont aussi des athlètes qui sont dans les tops mondiaux. Donc, il n'y a pas de souci, on va continuer à faire notre travail, et puis en attendant que Vincent nous rejoigne le plus tôt possible, mais tout en respectant les délais de cicatrisation et puis en lui laissant le temps de bien se reposer. Quoi.
Alors, on parle de cette équipe de France masculine, on va évoquer justement le 15 km. Un 15 km décevant, on a envie de dire, avec vous, puisque le premier Français, c'est Maurice Magnifica, il termine à une décevante 17e place. On est passé un petit peu au travers sur cette première étape côté français.
Oui, on espère un peu mieux, ça c'est vrai. Après, il faut pas tomber non plus dans trop le défaitisme, parce que l'an dernier, à cette époque, Maurice n'était pas dans les 30 premiers des deux premières Coupes du Monde. La saison est longue, notre objectif c'est plutôt le Tour de Ski, la Clusaz, le Tour de Ski et puis les Chemins du Monde. On a montré qu'on était là, il nous manque 15-20 secondes par athlète. C'est plus à la limite Vincent qu'on attendait peut-être plus dans les 10.
Mais bon, 28e, on rappelle, sur cette première course.
Pardon ?
28e, on le rappelle, sur cette première course.
Oui, 28e, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas se satisfaire de résultats comme ça, c'est évident. Maintenant, il ne faut pas non plus tirer de bilan trop hâtif, il faut laisser quelques courses, et puis après, on pourra voir si le début de saison est bon ou pas.
Ça veut dire que vous avez très clairement axé la préparation sur les échéances de fin d'année, hein, on le rappelle, avec le Tour de Ski qui débutera du 31 décembre et qui finira aux alentours de début janvier, aux alentours du 9, les Mondiaux à Oslo aussi qui sont une échéance programmée en fin de saison. Ça veut dire que toute la saison est organisée tant exclusivement vers ces objectifs-là ?
Non, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, on aurait préféré mieux attaquer la saison. C'est vrai que les objectifs sont plus tard, mais... On décide pas vraiment tout le temps de l'état de forme des troupes. Il y a des années où on a claqué très fort d'entrée, des fois on est parti un peu plus doucement, mais généralement à partir du mois de décembre, on retrouve des places un peu plus conformes à nos ambitions. C'est vrai qu'en début de saison, on tombe sur des neiges scandinaves qui ne sont pas toujours très favorables. On tombe sur des Scandinaves qui sont en sélection, notamment les Norvégiens, les Suédois, qui sont en sélection pour gagner leur place sur les Coupes du Monde et sur les grands événements. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué.
Christophe Deloche, le directeur de la Coupe du Monde pour cette équipe de France, est avec nous aujourd'hui dans Carrément de Liste pour faire un petit peu le bilan de cette équipe de France de ski de fond. Après ce premier week-end, vous avez parlé des ambitions des Français pour le Tour du Ski, pour la fin de cette année 2010 et le début de l'année 2011. Justement, ces ambitions, quelles sont-elles ? On n'a pas encore eu l'occasion cette saison de vous entendre sur ce point précis.
Eh bien, au Tour de Ski, c'est d'essayer de mettre deux athlètes dans les 10 premiers du Tour de Ski, puisque Jean-Marc Gaillard a fait 5e l'an dernier, très très proche du podium, puisqu'à 300 mètres de l'arrivée, il était encore potentiellement sur le podium. Et puis, au Championnat du Monde, de faire une médaille pour le ski de fond.
D'accord, une médaille donc pour le ski de fond. Est-ce que vous avez ciblé les distances sur lesquelles l'équipe de France va être particulièrement performante cette saison ?
Non, c'est toujours difficile à dire. Il faut pas. Sur le chemin du monde, c'est difficile de cibler une course parce que c'est un petit peu trop aléatoire. On a la chance en ski de fond d'avoir 4-5 courses différentes et en fonction de l'état de forme de chacun et puis aussi de la préparation qu'on peut avoir sur le niveau des skis, qui est très important dans notre sport. On a quasiment une chance sur toutes les courses. Donc on cible pas de course particulière.
Vous trouvez que cette équipe de France a digéré son relatif échec des Jeux Olympiques de Vancouver ? La motivation n'a pas été trop difficile à retrouver pour cette saison post-olympique ?
Non, pas du tout, pas du tout. Je crois que c'est un échec en termes de nombre de médailles peut-être, mais en tout cas pas du tout un échec sur la façon dont on abordait l'événement, sur le niveau de performance de nos athlètes. Au contraire, c'était même plutôt, on a plutôt l'impression d'avoir bien réussi notre préparation. Effectivement, on n'a pas de médaille, donc on peut pas parler de réussite. Mais je crois que c'était une base solide pour recommencer l'année, et on a quand même des athlètes comme Maurice Magnifica qui se sont découverts l'année dernière. Donc non, il n'y a pas de problème d'échec par rapport à ça.
On va parler également, si vous le voulez bien, de l'équipe de France féminine. Elle aussi en petite forme, on a envie de dire, pour ce coup d'envoi de la saison en Suède, avec une équipe là aussi qui va être privée pendant un temps certain, voire un certain temps, dirait l'autre, de sa chef de file.
Oui, c'est vrai que Karine est enceinte de son deuxième enfant. Karine Philippot, Laurent Philippot, donc elle ne va pas courir cet hiver. Elle décidera au printemps si elle continue sa carrière ou pas. Et puis derrière, on a une équipe de France qui tarde un petit peu à montrer son potentiel, même si hier sur le relais, on a vu des choses déjà bien meilleures, avec notamment Laure Barthélémy qui a fait le deuxième temps de son relais, donc ça c'est très positif. Mais c'est vrai qu'il faut qu'elles prennent confiance et puis qu'elles se lâchent un petit peu plus, parce que elles ont peut-être pas encore le moyen d'aller faire des podiums ou des top 10, mais je pense que des places entre 10 et 20, c'est largement jouable pour nos filles.
C'est un problème de gestion de course ou un problème de puissance, de physique, de qualité?
Je dirais pas que c'est un problème de puissance ni de qualité. Je pense que les qualités, elles ont. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'elles prennent surtout confiance. Je pense que c'est plutôt un petit problème mental. Il faut qu'elles prennent confiance, puis qu'elles se disent que finalement, il n'y a pas de raison qu'elles aillent moins vite que les autres et qu'elles se lâchent. Quoi.
Christophe Deloche, le directeur de la Coupe du Monde pour cette équipe de France. Dernière question. Les ambitions à court terme, les prochains rendez-vous de cette équipe de France de ski de fond?
Donc là, on est en train de voyager pour aller sur la deuxième étape, qui est l'étape de Kuusamo, où il y a beaucoup de classiques, une étape qui nous a rarement réussi par le passé. L'essentiel, c'est de continuer à enchaîner des courses, à bien se préparer, et puis après on va arriver sur Düsseldorf et puis Davos-Lacusa, où là on est un peu plus en latitude sur des courses qui nous conviennent un peu plus. C'est ça les ambitions.
Et le mot magique, c'est Davos, hein, et ça nous rappelle évidemment cette superbe performance de la saison dernière, performance d'ensemble de cette équipe de France de ski de fond. On souhaite la même, et très rapidement, peut-être pas forcément à Kuusamo, on l'a compris, en Finlande, Kuusamo, où vous allez retrouver l'ensemble du combiné nordique également. Ce sera un petit peu the place to be, comme on dit, le lieu où il faudra être quand on aime le nordique. Merci beaucoup Christophe Deloche d'avoir été en notre compagnie pour faire avec nous le premier bilan de ce week-end de suédois, coup d'envoi de la saison de ski de fond, et à très très vite évidemment dans Carrément Glisse.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Carrément Glisse sur RTL L'Équipe. Avec Frédéric Schwecker, retrouvez Carrément Basket tous les mercredis de 11h30 à 12h30.
C'est reparti pour une nouvelle saison de Carrément Basket, et l'année 2010-2011 s'annonce palpitante. En NBA, Miami fera figure de grand favori avec son nouveau trio LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh. Également au programme, l'Euroleague, qui pour succéder au Grand Barcelone. En France, est-ce que Cholet arrivera à conserver son titre de champion? Sans oublier les équipes de France, le basket féminin et le street basket, tout cela sera débattu avec tous nos spécialistes.
Carrément Basket sur RTL L'Équipe, c'est tous les mercredis de 11h30 à 12h30 et en podcast sur rtl.fr. RTL L'Équipe, Carrément Glisse, Clément Grève.
Allez, 9 minutes désormais avant la fin de la première mi-temps, avant la pause, donc la pause pour les infos. Nous, on reste ensemble pour continuer d'évoquer l'actualité de l'ensemble des sports de glisse, de l'ensemble des sports de glace. Les rendez-vous de la deuxième demi-heure, je vous les redonne rapidement. On retrouvera Didier Laillet, le président de la Fédération Française des Sports de Glace, pour évoquer le trophée Bompard. Et puis, il y aura un grand entretien avec Aurélien Ducros, qui ne va pas tarder à arriver dans ce studio pour évoquer ce double projet absolument fascinant, captivant, redevenir champion du monde de freeride cet hiver et disputer la mini transat jusqu'à Salvador de Bahia. C'est de la course au large, c'est de la voile, et on en parlera évidemment dans la deuxième demi-heure de cette émission Carrément Glisse. Pour l'instant, nous, on va s'intéresser au biathlon avec le coup d'envoi de la saison 2010-2011. C'est d'ici quelques jours maintenant, à la fin de la semaine, à Östersund en Suède. Et pour en parler, on retrouve l'un des visages de cet hiver 2010, l'un des visages de Vancouver, l'un des visages du biathlon français. Il s'agit évidemment de Marie-Laure Brunet. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour.
Comment ça va déjà à quelques jours maintenant du coup d'envoi de cette saison 2010-2011?
Ça va bien, maintenant j'attends avec impatience le début de cette nouvelle saison. C'est vrai que Mais voilà, l'automne est long, on a toujours envie de renouer avec la compétition, donc maintenant c'est vrai qu'il me tarde d'avoir le dossard sur le dos.
Deux médailles, on le rappelle, aux Jeux Olympiques, une médaille de bronze, une médaille d'argent. Est-ce qu'on a eu du mal à retrouver la motivation cet été?
Non, la motivation elle est très vite revenue, parce que bon, c'est vrai que je suis au début de ma carrière, enfin, en tout cas j'espère, et j'ai encore de grands objectifs, donc voilà, les Jeux c'était une belle étape, mais ça continue. Et donc très vite, voilà, il y a une nouvelle saison qui commence avec de nouveaux objectifs. Alors non, la motivation, elle est là.
Alors objectif justement, le mot est lâché. Quels sont-ils? Question simple.
Voilà, l'an passé, j'ai terminé 9e du classement général de la Coupe du Monde. Cette année, pourquoi pas rentrer dans les 6, voire mieux si je fais ce qu'il faut. Et puis voilà, j'aimerais être plus souvent sur le devant de la scène et signer ma première victoire en Coupe du Monde.
La première victoire, forcément l'objectif de Marie-Laure Brunet qui est avec nous aujourd'hui dans Carrément de Lisse. Est-ce que vous avez ciblé une distance, une course, une compétition sur laquelle vous aimeriez particulièrement briller cette saison?
Non, parce que j'aime chaque course et chaque format, donc non, ça m'est égal. J'ai vraiment envie de prendre beaucoup de plaisir avant tout et vraiment être le plus régulière possible, c'est-à-dire rester en forme tout au long de l'hiver et puis faire ce qu'il faut derrière la carabine pour basculer les cibles à chaque fois.
Et justement, vous avez ciblé quel type de travail particulièrement cet été, plus derrière la carabine ou sur le ski?
Non, on travaille autant le physique que le tir parce que à l'heure actuelle, on ne peut pas faire sans l'un ou sans l'autre. Il faut être vraiment au top dans les deux disciplines.
Mais dans les progrès que vous aviez à accomplir, vous sentiez plus de travail nécessaire sur le tir ou sur le ski?
C'est vrai que sur le tir, j'ai encore amélioré au niveau du temps et au niveau du temps d'exécution, puis sur la réussite. Et au niveau du ski, c'est vrai que j'ai encore à gagner pour faire partie des meilleurs mondiales. Donc voilà, il y a encore du travail. Mais il y a une partie qui a été faite cette année.
C'est une saison particulière qui s'ouvre pour l'équipe de France avec les nouveaux visages du biathlon qu'on a appris à connaître, que le grand public a appris à connaître à l'occasion des Jeux Olympiques de Vancouver. Vous, Marie Dorin, mais c'est une équipe de France qui se reconstruit pour cette saison 2010-2011 avec les départs de Sandrine Bailly, les départs de Sylvie Bécard. Comment vous allez gérer, vous, ce nouveau statut de leader, tout simplement, de cette équipe de France?
Moi, j'ai pas de problème avec ce statut-là parce que finalement, c'est les gens qui me désignent comme leader. Moi, je suis là pour performer et pour me faire plaisir dans mon sport. Donc voilà, moi, après, j'essaie d'apporter un maximum au groupe quand je peux et je suis toujours ouverte quand les gens ont des questions. Donc je suis là avant tout pour moi et pour réussir et me faire plaisir.
Et vous êtes presque la fille la plus expérimentée maintenant de ce groupe-là. J'imagine que ça doit être un petit peu particulier quand on est aussi jeune que vous.
Ouais, je sais pas. Après, c'est vrai qu'on est quand même plusieurs. Je suis pas la seule à faire partie de l'équipe. Il y a quand même des gens comme Vincent, Martin Fourcade, Simon. Donc on est pas mal. On se serre les coudes. On est une équipe jeune et qui a vraiment beaucoup d'ambition. Donc on va essayer de tous évoluer ensemble.
Alors on parle beaucoup d'équipe. On va parler un tout petit peu, si vous le voulez bien, de cette équipe de France féminine qui forcément va devoir se reconstruire. Une équipe de relais, puisqu'on le sait, vous formiez cette superbe équipe de relais avec Sylvie et avec Sandrine. Ça veut dire que les ambitions vont être un petit peu différentes cette année. On va d'abord chercher à construire un collectif avant d'aller viser les podiums.
Je pense qu'on a quand même une carte à jouer sur les relais. Après, il faudra qu'on soit tout à notre meilleur niveau. Mais vraiment, je pense que dès cette année, on va pouvoir essayer d'accrocher le podium. Alors peut-être pas aussi régulièrement qu'on pouvait le faire les années passées avec les autres filles. Mais voilà, je pense qu'on va essayer d'aller toutes les quatre prendre de l'expérience avec ce relais, ce nouveau relais. Et puis voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'on se mette de barrières et qu'on aille chercher ce qu'il y a à apprendre. Il n'y aura pas de souci.
Mais vous qui avez toujours vécu en équipe de France, aux côtés de Sandrine et Sylvie, qui étaient des championnes déjà alors que vous commenciez votre carrière, est-ce que c'est une saison différente, que vous imaginez différente du fait de leur absence?
Non, parce que finalement, on évolue quand même toute l'année ensemble. Donc là, on a tous hâte que ça commence. Et je pense que dès cet hiver, chacun sera à son affaire et avec, on a tous des objectifs différents et on sera tous là pour essayer de les atteindre. Donc non, c'est vrai que ça nous fait bizarre que les grandes ne soient plus là. Mais
on les appelait les grandes.
Ouais, ou les vieilles comme vous les faites.
Oh, ça c'est méchant. Je leur dirais, non, je rigole.
J'espère qu'elles écoutent. Non. Non, mais c'est vrai qu'elles continuent à prendre de nos nouvelles et voilà, on garde contact et ça fait toujours plaisir. Donc, on sait qu'elles sont pas loin si on a besoin d'un coup de main ou d'un conseil.
Le biathlon a brillé, on le sait, on le dit, on le répète à l'occasion des Jeux Olympiques de Vancouver. Est-ce que vous avez senti, vous, cet été, durant cet automne, dans votre préparation, un changement peut-être de regard de la part du monde des médias ou du grand public sur le biathlon, sur votre discipline? Est-ce que vous sentez le début d'une reconnaissance un peu plus importante?
Oui, c'est vrai que de par le fait que le biathlon a été très bien médiatisé pendant la période des Jeux Olympiques et en plus qu'on ait eu de très bons résultats, c'est vrai que les gens ont pu apprécier notre discipline à sa juste valeur. Maintenant, on nous reconnaît plus, les gens viennent s'intéresser et quand on dit biathlon, on nous dit plus c'est vélo et course à pied. Quoi. Donc voilà, donc c'est bien et après, c'est vrai que on sent que les médias aussi ont envie de nous suivre et voir comment on va évoluer jusqu'aux prochains Jeux Olympiques. Donc voilà, maintenant, on espère qu'on sera suivi dans les années qui arrivent par les chaînes nationales. Et voilà, ça serait bien que dès 2011, avec la Coupe du Monde au Grand Bornand en décembre 2011, qu'il y ait un petit effort de fait par les chaînes nationales.
Ouais, avec un projet qui est porté entre autres par Sylvie Bécard, la skieuse du Grand Bornand, qui suit ce dossier décembre 2011, la première étape de la Coupe du Monde de biathlon sur le sol français. Il faudra y être et nul doute qu'on y sera, nous, RTL équipe, pour ce grand rendez-vous qu'on attend tous avec impatience. Merci beaucoup Marie-Laure Brunet d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui dans Carrément de Lys pour revenir sur ce début de saison qui se profile dès Östersund, dès ce week-end. Le coup d'envoi de la saison 2010-2011 de biathlon. Bonne chance à vous, bonne chance à toute l'équipe de France et des résultats. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas dès ce début de saison. À très vite.
Merci beaucoup, à
Merci
bientôt.
Beaucoup.
RTL, première radio de France. L'équipe, premier quotidien sportif français. Quand deux numéros 1 s'associent pour créer la première radio numérique sport et info. Une couverture exceptionnelle des grands événements sportifs.
Le stade Vélodrome qui entonne la Marseillaise.
7 jours sur 7, 24 heures sur 24, des directs.
Pas santé, formidable !
Des débats, de l'info, tous les résultats, tous les sports. RTL, l'équipe. La première radio numérique sport et info.
RTL, l'équipe. Carrément Glisse, Clément Grèze.
Carrément Glisse, deuxième demi-heure désormais. On va se pencher sur l'actualité des sports de glace et notamment sur le patinage artistique car il y aura un rendez-vous très très important. C'est le trophée Bompard très prochainement. On va en parler dans quelques secondes maintenant avec Didier Gaillier, le président de la Fédération Française des Sports de Glace. Événement, le trophée Bompard. Donc en fin de semaine. Et puis cet entretien qui s'annonce d'ici quelques instants. Aurélien Ducrot a fait son apparition à RTL au 22 rue Bayard à Paris pour nous parler de ce défi que l'on a envie de soutenir, que l'on a envie de porter à RTL Équipe. C'est un défi exceptionnel, tout simplement, d'un homme qui est champion du monde de freeride et qui veut partir au large, faire de la course au large, de la voile et disputer à l'automne prochain, en 2011, la mini-transat entre les Charentes-Maritimes et Salvador de Bahia au Brésil. Aurélien Ducrot sera en notre compagnie d'ici 10 petites minutes, mais pour l'instant, c'est l'actualité des sports de glace avec le président de la Fédération Française, Didier Gaillet.
Retrouvez Carrément Glisse en rediffusion cet après-midi dès 15h30 sur RTL L'Équipe.
Président Didier Gaillagé, bonjour.
Bonjour.
Et comment allez-vous à quelques jours maintenant de ce grand coup d'envoi du trophée Bompard qui est la vitrine, disons-le clairement, du patinage artistique en France?
En très grande forme, comme le patinage français d'une manière générale. Tout va très bien. On se prépare.
On se prépare pour ce grand rendez-vous. Alors, on va rappeler pour tous les auditeurs qui ne sont pas forcément très coutumiers du patinage artistique que le trophée Bompard fait partie du Gotha, de l'élite des rendez-vous de patinage artistique mondiaux.
Oui, tout à fait. C'est une des épreuves de la Coupe du Monde de patinage. Et les meilleurs patineurs mondiaux vont se retrouver donc à Bercy pour faire à la fois un sport et un spectacle tout à fait exceptionnel, puisque donc au POPB, vendredi, samedi après-midi, samedi soir et dimanche, pour le gala, vont se retrouver l'élite du patinage mondial. Et bien évidemment, le patinage français sera présent.
Alors évidemment, le patinage français que l'on va suivre en cette saison post-olympique, une saison 2009-2010 marquée par les Jeux Olympiques de Vancouver qui n'a pas forcément été excellente pour le patinage artistique français. Vous avez l'impression aujourd'hui que vous êtes dans une phase de reconstruction et peut-être même de reconquête du grand public ?
Ah oui, j'en suis totalement persuadé. Bon, au-delà de nos stars, bon, on connaît bien évidemment les titres de champion du monde et d'Europe de Brian Joubert, mais il y a à côté de lui, donc, et ce juste après l'arrêt de la compétition de Isabelle Delobel, Olivier Schoenfelder, des athlètes comme Nathalie Péchala, Fabien Bonzat, qui sont dès maintenant capables d'être champions d'Europe, ce qui prouve que nous sommes capables à la fois de perdurer dans le temps, mais aussi de produire, entre guillemets, des athlètes du plus haut niveau. Donc, bon, et puis il y a la star montante du patinage français, Florent Amodio, qui sera lui aussi présent. Enfin, une armée de Français et de Françaises, parce qu'il y a des petites jeunes Françaises qui arrivent aussi. On était bien éloigné du temps des Souria Bonali, Laetitia Hubert et autres Vanessa Gusmeroli. Eh bien, nous avons une jeune équipe qui monte et qui s'avère extrêmement prometteuse. Donc, on travaille.
Et ça veut dire que vous avez des objectifs dès cette saison 2010-2011, où on est vraiment dans une phase de construction sur 4 ans avec la perspective de Sochi 2014.
Moi, je suis tout à fait persuadé que Brian peut être champion d'Europe. Je suis tout à fait persuadé que Nathalie Péchala et Fabien Bonzat peuvent être champions d'Europe. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Je suis même persuadé que le jeune Amodio et je n'oublie pas Alban Préaubert derrière peuvent tout aussi faire des médailles dès cette année à Berne au championnat d'Europe. Et puis on regardera après ces championnats d'Europe ce que l'on peut faire au championnat du monde. Non, on a vraiment une équipe qui est conquérante. Et à partir de là, bon, bah, écoutez, on a le moral, hein, c'est normal.
C'est évidemment normal. Le trophée Bompard en fin de semaine, on le rappelle, c'est le rendez-vous du patinage artistique en France. C'est la vitrine de ce patinage artistique vendredi, samedi et dimanche. Si vous êtes dans la région de Paris, passez par le Palais Omnisports de Paris-Bercy. Ce sera forcément un spectacle fantastique avec...
Avec des places à 20 euros.
Des 20 euros
de pour c'est le... C'est pas beau, ça.
C'est pas beau, ça, franchement. Non, si ce
sera
magnifique. Venez,
l'équipe de France a besoin de vous dans la perspective des championnats du monde qu'on va organiser en 2012 et bien évidemment de Sochi 2014 et pourquoi pas Annecy 2018. On a besoin d'un public formidable derrière nous.
Avec les Français évidemment qui se mobilisent, on le sait régulièrement, derrière ce patinage artistique qui est l'un des sports les plus populaires en France. Pour capitaliser sur le succès médiatique de ce type de compétition, comment on fait quand on est président d'une fédération française pour justement attirer, parce que c'est certes un sport populaire, mais un sport assez exclusif qui se réserve à une petite élite, à une très minime minorité, j'ai envie de dire, si c'est pas un peu redondant.
Oui, bah vous savez, on a pas des stades en grande quantité. Vous savez, à peine 180 patinoires en France, c'est peu par rapport à l'Europe. Ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas produit des grands champions, Candeloro, Bonali, les Duchesnais et autres, Anissina Pesera, Moniotte Lavanchy et bien d'autres. Donc on continue donc à travailler très dur. On n'a pas beaucoup de stades d'entraînement. Et puis on fait des initiatives. Par exemple, nous avons créé une licence qui s'appelle le Ice Pass à 5 euros pour permettre au plus grand nombre de pouvoir pratiquer. On sait qu'il y a environ 3,5 millions de gens qui pratiquent d'une manière occasionnelle ou permanente le patinage, la glisse, et qui mieux que nous peut revendiquer le terme de glisse. Nous sommes un sport de glisse à part entière et nous le revendiquons haut et fort.
Et carrément, justement, qui fait la part belle régulièrement au sport de la Fédération française des sports de glace. Dernière question, vous l'avez évoqué rapidement, Didier Gaillier, vous qui êtes le président de cette fédération, la santé du patinage artistique féminin, on sent l'émergence d'une nouvelle génération. Est-ce qu'on peut avoir des ambitions pour elle dans le futur ou on restera sur une génération qui est encore, selon vous, un petit peu trop limité dans les catégories de jeunes pour espérer véritablement rejoindre le très très haut niveau mondial?
Il faut pas se leurrer. La mondialisation des pratiques, qui aurait dit qu'une Coréenne, il y a 10 ans, serait champion olympique à Vancouver? Personne. Alors aujourd'hui, il y a une explosion du patinage mondial qui complique la tâche. Cela dit, nous travaillons, nous avons créé l'Opéra de la glace où se réunissent les meilleurs jeunes Français de manière régulière, où nous les contrôlons, nous y amenons de l'expertise internationale. Il ne faut pas rester tout centré sur le côté franco-français, il faut s'ouvrir à l'international, et nous le faisons. Et il y a des jeunes qui montent, la petite Silette d'Amari Lélis, la petite Maë Bérénice Maïté de Vitry, il y a les petites d'Annecy, où un travail formidable a été fait par le couple d'entraîneurs, les Lucines, avec la petite Léna Marocco, qui est championne de France à 14 ans à peine. On n'a même pas pu les envoyer au championnat d'Europe, tellement elles étaient jeunes l'année dernière. Cette année, elles sont dans les temps. Il n'y a pas de temps à perdre, évidemment, par rapport aux étrangers. Mais nous sommes confiants. Nous n'en avons pas qu'une, nous en avons plusieurs. Et à partir de là, eh bien, peut-être que l'avenir va s'avérer tout aussi fructueux qu'il le fut du temps des Souria Bonnali, notamment.
Eh bien, écoutez, ce sera à suivre. Et pourquoi pas dès ce week-end, le trophée Bompard, vendredi, samedi et dimanche. Évidemment, au Palais Omnisport de Paris, Bercy. Courez-y, ce sera un spectacle fantastique. Merci beaucoup, Président Gaillé, d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui encore dans le Carrément de Lice pour la présentation de cet événement et un point complet sur le patinage artistique en France. Et à très très vite, on l'espère, pour un nouveau numéro de Carrément de Lice.
Tous les lundis dès 11h30, c'est Carrément de Lice sur RTL L'Équipe.
Et invité aujourd'hui de Carrément de Lice, et c'est un vrai plaisir pour nous car c'est un champion, un vrai, un authentique qui nous rejoint dans ce studio. Aurélien Ducrot, champion du monde de ski freeride il y a un an et futur navigateur, on va en parler avec lui, est à mes côtés. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
À 28 ans, vous attaquez cette saison, une nouvelle saison de ski freeride, une nouvelle saison de Coupe du Monde, avec l'objectif, j'imagine, de retrouver votre rang. Vous avez été champion du monde en 2009, quatrième la saison dernière, si
exactement,
je ne m'abuse.
Ouais, ouais.
Cette année, l'objectif, c'est très clairement pour vous de redevenir le numéro 1.
Oui, oui, l'objectif est très clairement de revenir, revenir aux avant-postes. J'ai eu une saison un petit peu compliquée l'année dernière. Enfin, j'ai raté complètement mon début de saison. J'ai bien terminé, donc c'était important de bien terminer pour moi, justement, pour la motivation pour repartir derrière. Donc voilà, c'était la première fois que je me retrouvais en dehors du podium depuis que je suis au championnat du monde. Donc je compte bien y retourner et si possible sur la plus haute marche.
Et avec un petit peu de recul, vous avez réussi à analyser ce début de saison raté, à savoir les erreurs qu'il ne faudra pas répéter pour retrouver les sommets tout de suite.
Oui, oui, à peu près. Enfin, ça a été une saison un petit peu particulière où les premières courses ont été annulées, finalement toutes reportées chez moi à Chamonix. Donc j'avais pas mal de pression autour de ça et puis d'autres petits hic à côté, un programme assez chargé qui faisait que voilà, j'ai pas réussi à me mobiliser comme j'aurais le souhaité, mais j'ai réussi derrière à le faire dès qu'on est reparti sur d'autres compétitions. Et je pense maintenant savoir d'où c'est venu et de ne pas faire l'erreur cette année.
À Chamonix, justement, ce sera le coup d'envoi de la saison.
Ouais.
Mi-janvier, le 22, très exactement, 22 janvier 2011. C'est encore loin. On est donc en pleine phase de préparation.
Voilà, exactement. Pour l'instant, on reprend doucement le ski maintenant, après avoir passé un automne à s'entraîner physiquement. Et donc, voilà, on commence à faire nos premières courbes sur la neige. Et voilà, d'ici un mois et demi, il faudra être fin prêt pour en découdre à Chamonix.
C'est encore très, très loin. Ça veut dire que là, la préparation physique est terminée et on attaque vraiment la pure technique.
Voilà,
la pure
exactement.
Courbe. Est-ce qu'on a des choses que l'on cherche à créer, par exemple, quand on attaque une nouvelle saison, le ski freeride étant un espace de liberté?
Bien sûr, on essaye toujours d'évoluer, de progresser, que ça soit au point de vue technique, au point de vue de la vitesse, de la fluidité, mais pour ma part, c'est particulièrement au niveau des sauts et entre guillemets du freestyle que j'essaie de progresser chaque année, donc sur lequel je pousse un peu plus d'année en année, parce que je viens pas du tout d'un monde du freestyle, et donc c'est pas quelque chose d'hyper naturel, je dirais, pour moi. Et donc voilà, je sais que j'ai du travail là-dessus, donc c'est sûr que mon axe d'entraînement pour cette saison sera plus là-dessus, et puis après je me baserai aussi sur mon expérience et sur ma base technique que j'ai acquis ces dernières années.
Et pour travailler le freestyle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait du pipe? Ça veut dire qu'on fait...
Non, on fait pas du pipe, par contre, non, parce qu'en fait, il faut faire un petit peu en début de saison, un petit peu de tremplin, un petit peu de saut, et puis après, c'est s'entraîner à faire du freestyle en milieu naturel, parce que c'est ça qui est très très compliqué. C'est quand un tremplin est très bien damé et a une courbe parfaite, c'est facile. Par contre, quand on arrive sur une barre rocheuse, c'est souvent, tu as un pied à 10 cm au-dessus de l'autre, ça descend, ça monte, c'est en poudreuse, donc les appuis sont complètement différents. Donc c'est vraiment essayer de réussir ces figures qu'on peut réussir sur les tremplins en milieu naturel.
Avec donc cet objectif, on le disait tout à l'heure, de débuter cette saison sur les chapeaux de roue, puisque ce sera à domicile, à Chamonix. Vous êtes un chamoniard un petit peu particulier, si je peux me permettre. J'ai cru voir que dans votre formation de skieur, vous aviez fait du ski alpin, forcément, on passe tous un peu par là quand on est né à Chamonix. Voilà. Et du saut à ski aussi.
Et du saut à ski, oui. Par contre, arrivé à l'âge de 14 ans, j'avais vraiment pas le gabarit d'un skieur. Et donc, ça commençait à être dur en ski alpin. Et j'étais tout petit et très léger. Et par contre, c'était parfait pour le saut à ski. Et donc, je me suis lancé là-dedans. J'ai passé 5 ans en équipe de France de saut à ski avant de revenir à mes amours qui étaient le ski et la montagne. Parce que j'ai un père guide de haute montagne avec qui j'ai passé beaucoup de temps en montagne. Et ça me manquait vraiment dans la pratique du saut. Et donc, avant de repartir dans le freeride. Voilà.
De cette expérience de saut à ski, qu'est-ce que vous avez gardé aujourd'hui qui vous sert? Par exemple, en côtoyant une équipe de France qui cherchait à cette époque-là à se professionnaliser.
Oui, voilà, j'ai gardé une certaine rigueur qu'on t'apprend en équipe de France. J'étais de 15 ans et demi à 20 ans, et donc c'est sûr que j'apprends une rigueur d'entraînement qui, je pense, m'a permis d'être au niveau en freeride beaucoup plus rapidement. Et puis aussi une fluidité. J'ai toujours eu l'habitude d'arriver à 90 km/h sur les tremplins. Et donc pour moi, quand j'ai commencé dans le freeride, il était logique d'arriver avec de la vitesse sur les barres rocheuses qui, à cette époque, en freeride, n'était pas très, très habituel. Et donc c'était un petit peu un nouveau style qui arrivait. Et donc voilà, donc forcément ça m'a servi, mais surtout voilà, la rigueur de l'entraînement, des choses comme ça, le professionnalisme en fait que m'a appris la fédération, je m'en suis servi pour évoluer le plus rapidement possible en freeride.
Carrément glisse sur RTL l'équipe.
Aurélien Ducrot, freerider, champion du monde 2009, est notre invité aujourd'hui dans Carrément glisse. Aurélien, le fait d'avoir un père guide de haute montagne, à quoi ça sert alors d'attaquer une carrière de freerider?
Alors, la montagne, c'est un milieu.
De la montagne.
Voilà, la montagne, c'est un milieu très particulier qui est très difficile à apprivoiser. Il y a des gens qui seront jamais à l'aise en haute montagne. Il y a des gens qui seront très à l'aise. Et le fait d'y avoir passé du temps, de le faire, d'avoir entendu beaucoup de récits, beaucoup de choses, et d'être baigné dedans dans ce monde-là de la haute montagne depuis tout petit, fait que je m'y sens bien. Et c'est très important pour un freerider de se sentir bien en haute montagne. J'ai pas d'appréhension de la montagne, j'ai pas d'appréhension du vide ou des choses comme ça. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est en moi, qui est ancré en moi et qui m'a beaucoup servi et dont je me sers beaucoup aujourd'hui.
Et en compétition aussi, ça sert?
En compétition aussi, ça sert parce que les conditions qui sont très difficiles sur les faces très très raides ou très techniques, qui ont vraiment une ambiance très alpine, je dirais, je pense que des pro-riders peuvent se faire impressionner parce qu'ils n'ont peut-être pas ce background de haute montagne comme j'ai pu l'avoir. Alors que moi, je me sens plus c'est dur, plus c'est raide, plus c'est technique, mieux je me sens et plus fort je me sens. Donc clairement, en compétition, ça m'aide.
On reste en haute montagne quelques instants avant de plonger vers la mer. Il n'y a pas à proprement parler d'équipe de France de ski freeride. Pourtant, les Français sont très largement dominateurs dans cette discipline. Est-ce qu'on se tire la bourre avec Candide Tovetz qui vous a cette année ravi le titre de champion du monde?
Oui, alors effectivement, il n'y a pas du tout de fédération. On est chacun libre de soi-même. C'est vraiment de l'autogestion de notre saison. On n'a pas d'entraîneur, on n'a pas de choses comme ça. Et c'est vrai que la France, depuis 15 ans, domine assez largement ce sport. Et forcément, on se tire un peu la bourre. Mais le freeride, c'est assez, on se tire une bourre assez, assez sobre parce qu'en fait, on se bat pas contre un chronomètre, on se bat pas contre une distance à faire, on se bat pas contre quelqu'un, on se bat uniquement contre nous. On a un point de départ, un point d'arrivée et on est libre de faire ce qu'on veut. Donc, ta performance au final dépend uniquement de toi, de la ligne que tu as choisie et de la façon dont tu l'as réalisée. Donc c'est pour ça qu'on arrive à, oui c'est des compétitions, oui c'est un championnat du monde, mais à une ambiance complètement hallucinante, je dirais, pour un sport de haut niveau, parce qu'on se bat vraiment contre soi-même et en aucun cas la performance que va faire un autre... c'est vraiment, si je skie bien, si je réalise ce que j'ai voulu faire, ça marchera ou ça marchera pas. Mais si ça marche pas, c'est que je me suis planté dans la ligne que j'ai choisie. C'était pas la meilleure et il a choisi la meilleure. Mais c'est vraiment quelque chose de très personnel plutôt que, On n'est pas en compétition directe les uns contre les autres.
J'imagine, mais je me trompe peut-être là. C'est une méconnaissance possible de ma part, qu'on n'en vit pas forcément très facilement du ski freeride. Est-ce que c'est une erreur? Et si ça ne l'est pas, est-ce que du coup, bah, ça peut biaiser quelque peu les relations entre les athlètes? Parce que j'imagine que le premier gagne plus que le suivant. Et
oui, mais on a l'avantage, c'est que le freeride, c'est un petit sport. Donc, peu de personnes en vivent vraiment à l'année parce que c'est un petit sport. Et donc, mais qui se professionnalise beaucoup. Donc, de plus en plus, y arrivent. Ce qui est plutôt bien. Maintenant, on est loin de... On n'est pas du tout dans un monde d'argent, au contraire. Et donc, il n'y a pas tous ces problèmes d'argent, de financement. Il n'y a aucune guerre de ça.
Mais une saison coûte cher pour vous,
oui, en tant qu'athlète. Oui, une saison coûte cher, mais ce n'est pas pour ça qu'on va gagner beaucoup. Celui qui va gagner, il ne va pas gagner des mille et des cents. C'est vraiment des sommes, je dirais, assez ridicules par rapport à tous les autres sports qu'on connaît. Donc, et c'est ce qui fait qu'il y a aussi une superbe ambiance, c'est que ce n'est pas du tout pourri par l'argent.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure, Aurélien Ducrot, qui est avec nous aujourd'hui, pour parler de freeride notamment, ouais. D'espace de liberté entre un point de départ et un point d'arrivée. Ça ressemble pas mal à votre autre passion, ouais. Et au-delà d'une passion, de votre autre activité sportive, parce que, un peu comme Gerlin Chicherie, vous avez ressenti le besoin, à un moment, d'occuper ces 6 mois dans l'année où, malheureusement, le ski freeride n'est plus d'actualité.
Exactement.
Ouais. Et cette passion, c'est la course au large.
C'est la course au large, voilà, en solitaire, c'est la voile. Je me suis lancé à un défi qui a commencé cette année. Je viens de réaliser ma première saison en mini 650 en vue d'une transatlantique, de la mini transat en septembre l'année prochaine. Et voilà, c'est une nouvelle passion. C'est pas venu du fait que je voulais occuper ces 6 mois d'été, parce qu'il était occupé avec l'entraînement, avec pas mal de choses, où je skiais l'été aussi. Mais c'est venu d'une rencontre que j'ai faite avec ce milieu de marins, avec Adrien Hardy, un skipper, tardive en 2007, où on m'a proposé d'être parrain d'un bateau. Je ne connaissais rien à la mer ni à rien, et j'ai découvert ce monde, j'ai découvert ces marins, tous ces récits, tous ces personnages, tous ces moments de vie qui m'ont éclaté vraiment. Et puis bah, pendant 2 ans, le projet a un peu mûri dans ma tête. J'ai dit pourquoi pas, j'essaierai, et pourquoi pas. Et puis quand j'ai gagné le championnat du monde, j'ai pu m'acheter mon bateau. Donc je me suis acheté un bateau dans l'idée de faire de la course au large. Mais bon, au départ, j'avais pas de partenaire. Et puis de fil en aiguille, ça s'est fait. Les gens m'ont fait confiance. Et j'ai pu réaliser ma première saison cette année. Et j'ai réussi à me qualifier pour la mini transat de l'année prochaine. Donc, c'était pas une première saison facile, parce que j'avais beaucoup de choses à apprendre, mais qui s'est très bien terminée. Et donc je suis assez fier, parce que j'ai vraiment mis tout ce que je pouvais pour réussir ce projet, et il est en cours de réussite, et donc il en reste une grosse partie, mais voilà quoi un peu l'idée du...
Tous les lundis dès 11h30, c'est Carrément Glisse sur RTL L'Équipe.
Aurélien Ducrot, toujours avec nous dans Carrément Glisse, champion du monde 2009 de ski freeride, on le rappelle, mais aussi donc concurrent de la prochaine mini transat en septembre 2011. Aurélien, de mer à montagne, on a du mal, et pourtant on les devine quand même, les passerelles entre les deux mondes, la liberté, mais également l'obligation de respecter un certain cadre, de respecter l'élément qui est bien évidemment dominant.
C'est, voilà, exactement, c'est le respect de l'élément, qu'on soit en montagne ou en mer. On est au milieu de l'élément, face à l'élément, et il faut absolument le respecter, parce que, voilà, on le dit, on le répète, mais voilà, la nature est plus forte que nous. Et donc, c'est vraiment ce jeu avec la nature, entre soi-même et la nature, que je trouve intéressant et passionnant, de soi-même pousser un petit peu ses limites, aller voir plus loin, tout en respectant au maximum la nature et en respectant un acte de sécurité, parce que on n'a pas le droit de se faire mal à des endroits en ski. Suivant où on est loin, les secours ne peuvent pas venir. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et c'est la même chose en mer, particulièrement en solitaire. Donc, il faut qu'on pousse, parce que c'est un peu dans la compétition. On a envie d'aller vite, on a envie de faire les choses. Mais aussi, il faut garder une certaine marge de sécurité. Et ça, je trouve ça assez... Enfin, c'est génial. C'est vraiment dans ces deux éléments, je trouve, qu'on ressent le plus fortement ce sentiment. Et
est-ce que dans le plaisir sportif, dans la sensation pure, vous retrouvez dans des surfs sur l'eau, des plaisirs de glisse sur ski?
Ouais, et alors c'est quelque chose que je découvre vraiment avec ces bateaux de course, c'est qu'il y a des vraies sensations de glisse. Et on se rend compte, et j'étais à mille lieues de l'imaginer, mais la voile, c'est un vrai sport de glisse. Et je ne le savais pas, parce que je ne connaissais pas. Et donc voilà, donc il y a quelques similitudes comme ça. Après, par contre, c'est sûr que dans la pratique des deux, il y a très très peu de ressemblance, je dirais, et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de choses à apprendre.
Alors, vous mettez quand même un peu à bas la légende selon laquelle il faut être né dans un port de pêche pour être un voileux, comme on dit. Est-ce qu'on est accepté par cette famille quand on assume et avoue le plus honnêtement du monde que bah, ça fait que 3 ans, somme toute, que cette passion est née et qu'on a
découvert ? Oui, bien sûr. En tout cas... Le projet est très très bien accepté par les marins et ils me filent beaucoup de coups de main, ils m'aident beaucoup. Donc l'idée n'est pas de mettre à mal ça, bien au contraire. Moi c'est juste, j'ai découvert un milieu qui me plaît. Je ne savais même pas si vraiment ça allait me plaire au final. Aujourd'hui je m'épanouis complètement là-dedans et donc j'en suis très heureux. Voilà, c'est très, je dirais... personnel, quoi. Donc c'est en aucun cas mettre à mal quoi que ce soit. J'ai découvert ça, c'est une rencontre, c'est un peu une coïncidence dans ma vie et qui se transforme en grand bonheur pour moi. Et voilà.
Est-ce que vous craignez qu'il faille faire un choix à un moment si vous voulez concilier à haut niveau les deux disciplines?
Il est certain qu'il y a un moment, si je veux progresser en bateau, passer sur des plus gros bateaux, enfin continuer là-dedans, il va falloir que je passe plus de temps en mer et donc moins de temps en ski. On a l'avantage, c'est qu'entre guillemets, j'arrive à un moment de ma carrière où le ski va doucement décliner, et alors que la voile peut qu'augmenter aujourd'hui. Les skieurs font des carrières jusqu'à 30-35 ans. J'en ai 28 aujourd'hui, donc c'est sûr que dans quelques années, le ski va forcément déjà rapetissir et puis s'arrêter un jour. En tout cas en compétition, hein, je skierai toujours. Et donc je pense que c'était aussi le bon moment pour moi de lancer ce projet, pour peut-être pour avoir une suite. Je ne sais pas où tout ça va aller. Aujourd'hui, je rêve de plein de choses parce que, comme je disais, je m'éclate en mer. Donc voilà.
C'est donc une année 2011 qui s'annonce particulièrement importante pour vous.
Particulièrement importante, particulièrement chargée.
Et... chargée également, qui commence le 22 janvier, on le rappelle. Exactement. Pour la première étape
du
Freeride World Tour. Ce sera à Chamonix, on le dit, on le répète. Allez-y si vous avez la possibilité.
Ouais, c'est un grand spectacle.
De découvrir ce sport qui est fascinant. De par la découverte, c'est surtout, les sportifs qui le représentent, ce sport. Et puis ensuite, y aura toute cette saison avec cet objectif, donc on l'a dit, de redevenir le numéro 1 de la discipline, le champion du monde. Et puis ensuite, on embraye la mer
directement,
et la mini Transat, la Transat 6.5.
C'est ça.
Ce sera en septembre. Avec quel objectif septembre. Pour vous de finir
de l'objectif, l'objectif, bien sûr, c'est de finir, déjà très clairement. Et c'est d'être le plus performant possible. Je n'oserais pas dire mieux que voilà. J'ai vraiment envie de faire de mon mieux et donc je vais faire tout ce que je peux pour arriver le plus vite possible au bout. Je ne sais pas combien de temps je mettrai, j'ai aucune idée, mais déjà si j'arrive au bout et dans le maximum, ce sera une grande victoire pour moi.
On rappelle que la mini Transat, ex-mini Transat devenue la Transat 6.5, on part de Charente-Maritime et on arrive à Salvador de Bahia au Brésil. C'est donc une transatlantique,
exactement,
en fait, tout simplement. Voilà qui situe un tout petit peu le niveau d'envie et surtout c'est la difficulté de l'objectif que vous vous êtes fixé. Merci beaucoup, Aurélien Ducrot, d'avoir été avec nous, de nous parler de ce superbe double projet, en vous souhaitant le meilleur, évidemment, pour ce début de saison. 22 janvier, Chamonix, la première étape de la saison de freeride et puis la suite, tout le reste de la saison. Et évidemment, cet objectif de transatlantique sur ce petit voilier de 6,50 m. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
On vous souhaite tout le meilleur.
Merci.
Allez, la fin de cette émission dans 10 petites secondes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Carrément Glisse. Merci à Aurélien Ducrot et à tous les invités de cette émission, Marie-Laure Brunet, Jason, Lamy Chapuis. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, même lieu, même heure, 11h30, midi et demi, pour un nouveau numéro de Carrément Glisse.